voulez vous lever, on va lire la parole de Dieu, les 6 premiers versets du chapitre 17 de l'Apocalypse. Apocalypse 17, versets 1 à 6. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Et il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, plein de noms blasphèmes, et ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Je vais vous asseoir. Alors, j'ai tout simplement intitulé le sermon d'aujourd'hui « Le châtiment divin de Babylone, la grande prostituée ». Je dois vous dire, je parlais l'autre jour avec mon épouse, des fois je prépare les leçons, puis là, les idées sortent à mesure, puis je prends du temps, j'essaie d'aller voir dans plusieurs outils, les dictionnaires, puis je lui partageais l'idée suivante. Quand on prend un texte comme celui-là, puis qu'on voudrait faire une étude que j'appellerais détaillée, profonde, juste avec le mot « Babylone ». Quand tu commences à étudier le sujet, bon, ça vient d'où ce nom-là? Pourquoi le Seigneur utilise le nom Babylone? Là, on sait qu'on recule dans Genèse, on recule dans Nimrod, on recule dans la fameuse ville qui voulait construire une tour pour aller jusqu'aux cieux. Et Babylone, tout au cours de l'histoire des hommes, l'histoire dans l'Ancien Testament, Babylone est présente. Elle est présente avec le roi Nebuchadnezzar, par exemple. Et le Seigneur a fait des prophéties sur sa chute, la Babylone physique de l'Ancien Testament, la Babylone historique. Le Seigneur a fait des prédictions de sa chute et de sa destruction totale. Pensez-vous qu'il utilise ce nom-là innocemment et sans un but précis? Je disais à Lucie, si on s'arrêtait, on prenait juste le mot Babylone, qu'on irait voir tous les passages des Écritures, où on nous parle de cette ville-là, avec ses caractéristiques, on serait étonné de ce qui sortirait. Puis il y a d'autres exemples, quand ça dit « mère de toutes les impudicités et de toutes les abominations ». J'ai fait un test, parce que je préparais ça, puis j'ai dit « bon, OK, quand ça dit « mère des impudiques et des abominations », là, tu prends ton gros dictionnaire biblique, tu rouvres au mot « abomination ». Il y a un article, peut-être l'équivalent d'une page. Et là, l'auteur nous dit « tout ce que Dieu considère comme étant une abomination ». Ça dit que c'est la mère de toutes les abominations de la terre. Dieu définit c'est quoi des abominations. Ce que je voulais dire par ça, que je veux vous dire, c'est que quand on dit tantôt, on est rendu, ce sont des 17e leçons, on pourra faire bien plus de leçons que ça. Là. Parce que c'est juste avec un chapitre comme celui-là, les 6 premiers versets, si on se mettrait à prendre les mots, les mots choisis, il faut dire, la Bible est inspirée par le Seigneur. Hein. C'est le Saint-Esprit qui inspire les mots. Mais c'est parce que des fois, on lit rapidement, on lit en surface. On ne s'arrête pas à aller chercher la signification des mots. Quand ça dit que Babylone la Grande, les mères des impudiques et des abominations de la terre. Tout ça pour vous dire que la parole est extrêmement riche. Extrêmement riche. Puis plus on l'étudie, plus on s'en rend compte, plus on se dit, oh, quel... C'est extraordinaire. Quand on dit à Dieu, je te remercie pour la parole que tu nous as donnée. Je pense qu'en même temps, il faut prendre conscience de sa richesse, puis du peu de temps qu'on lui consacre. Ça, c'est important de réaliser cela, parce que plus on va comprendre sa beauté, sa richesse, sa profondeur, plus on va avoir le goût de l'approfondir et de l'étudier, parce qu'elle est tellement riche, elle a tellement de choses à nous enseigner. Là, je vous dis ça avant de commencer. OK, donc on va regarder le châtiment divin de Babylone, la grande prostituée. Les versets 1 et 2, le châtiment divin qui est déclaré. Les versets 3 et 4, châtiment divin qui est dévoilé. Et dans les versets 5 et 6, c'est la grande prostituée qui est démasquée. C'est vraiment l'idée que pourquoi Jean est dans un très grand étonnement. On se pose la question, pourquoi Jean est dans un grand étonnement? C'est parce que c'est les religieux, l'aspect religieux de la terre, qui va le plus être l'outil de persécution des enfants de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, je fus saisi d'un grand étonnement. À quelque part, en tout cas, on va regarder ça en détail tantôt. Ce qui est important de réaliser, parce que quand je commence un nouveau chapitre, les auteurs font toujours quelques observations générales sur le passage en particulier. Et voici ce que Oxema, ce qu'il dit. Il dit que les chapitres 17 et 18 sont indissociables. Et ils sont donnés pour nous expliquer, pour amplifier qu'est-ce qu'on a vu dans les jugements des coupes. Tu sais, les deux chapitres précédents, le Seigneur a donné les jugements. Puis là, il nous dit, c'est pas quelque chose de nouveau, là. Il est en train de dire 17 et 18, c'est l'explication de ce qui a déjà été donné dans 15 et 16. C'est important de réaliser parce que tu es en train de dire cette idée-là. Et autre chose importante à réaliser concernant le passage qu'on est en train d'étudier, c'est que beaucoup de commentateurs considèrent que c'est un des passages les plus difficiles de tout le livre de l'Apocalypse. Alors, quand tu lis ça avant de commencer ton étude, tu dis, t'es encourageant un peu là, t'es encourageant, maman. Alors, voici ce qu'il dit, le pasteur Herman Oxema. Il l'a prêché deux fois au complet dans son église, le livre de l'Apocalypse. Herman Oxema est un réformé. Il dit... Par conséquent, la compréhension claire du caractère et de la manifestation de Babylone, la grande prostituée, est d'une extrême importance pratique. Là, on s'arrête. Extrême importance pratique. Si tu comprends bien, ça a une extrême importance pratique. Venant d'un plus calé comme moi, je dis « ouais, peut-être que je devrais m'arrêter, faire attention. » Ensuite, il dit « en même temps, nous pouvons bien admettre que c'est l'un des passages les plus difficiles de tout le livre de l'Apocalypse à comprendre. » C'est des gars qui est vraiment un érudit, puis plusieurs autres érudits, disent la même chose. C'est difficile parce que ça implique de concilier les idées qu'on n'arrive pas à concilier. Alors, il nous rappelle une autre idée qu'on a vue la semaine dernière aussi, l'idée que les chapitres 17 et 18 ne sont pas strictement chronologiques de ce qui est décrit dans le chapitre 16. Chronologique, ça veut dire qu'il vient après. On lit le chapitre 16 et on serait porté à penser... Ce qui va venir après le chapitre 16, ça va être quelque chose de nouveau. Ce que je viens de vous dire tantôt, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est l'explication des jugements qui ont été donnés dans 15 et 16. Ça, c'est super important. Et là, il mentionne une des grandes idées. Si je vous dirais ce matin, là, vous l'avez lu l'Apocalypse, mais plus qu'une fois, là. Lui, il dit qu'une des grandes difficultés du passage 17, 1 à 6, c'est d'harmoniser les deux idées concernant Babylone. Alors, dans le passage, on parle de Babylone qui est à la fois une cité et une femme. Là, il dit, OK. Le passage dit que c'est à la fois une cité et une femme. Harmonise-moi ça. Autrement dit, explique-moi ça. Et là, tu te rends compte, dis, ouais, comment j'expliquerais bien ça, là? Mais les Écritures, bien souvent, sont la réponse. Dans les Écritures, si on ferait ce qu'on a dit tantôt, là, si on prenait le mot Babylone, on le prendrait du début, puis on le rendrait à la fin, on découvrirait pourquoi il utilise le mot Babylone comme une ville, en parlant du mal, et à la fois comme une femme. Et là, à un moment donné, quand on essaie d'harmoniser les deux idées, on arrive à l'expliquer, et là, on comprend la manière intelligente et hyper sage du Seigneur d'enseigner. Alors, on va relire les versets 1 et 2, quand on dit « Le châtiment divin est déclaré ». Ça dit « Et l'un des sept anges qui avait les sept coupes ». Juste pour faire la relation avec les chapitres précédents. Les anges avaient donné les sept jugements, les sept coupes de la colère de Dieu. Il dit que c'est un de ces sept anges-là qui est venu voir, il est venu vers l'apôtre Jean. Il dit « Vins et me parla en disant « Viens, je te montrerai le châtiment de la grande prostituée qui est assise sur les grosses eaux, avec laquelle les rois de la terre ont commis fornication et qui a enivré du vin de sa prostitution ceux qui habitent la terre. » Tout de suite, là, dans les deux premiers versets, il y a déjà des difficultés. Hein? Une prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Là, quelles grandes eaux? De quoi tu parles, là? C'est un langage symbolique. Et la même chose que je vous disais tantôt, si on prendrait le thème « grandes eaux » des Écritures, à partir du début, puis on suivrait tout le long de la Bible, on arriverait à l'Apocalypse, on se poserait même pas de questions, ça serait clair dans notre tête. Et c'est ça qu'on fait pas, on lit, et on lit souvent trop en surface, et on ne fait pas de lien avec ce qui a été dit, avec l'expression qui a déjà été utilisée dans l'Ancien Testament, ou tout au cours de la Bible, mais qu'on n'a pas vraiment saisi qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire par ça. Alors, on sait que dans les versets 1 et 2, c'est une déclaration, mais Dieu se sert d'un instrument pour le donner à son apôtre Jean. Mais Jean, il l'a donné. Ce qui est intéressant du livre de l'Apocalypse, c'est que les gens du premier siècle, disons que ça a été écrit en 95, qu'on s'entend, là, en gros, il y a bien de l'ostination là-dessus, mais disons, en gros, les gens vont dire en 95. Donc, les gens du deuxième siècle, en 100, 115, 125, 140, ceux qui lisaient l'Apocalypse, ils comprenaient quelque chose quand ils lisaient ça. Ceux du deuxième siècle, ils comprenaient encore quelque chose, mais pas la même chose. Quoique ça avait beaucoup de similarités. C'est pour ça qu'on parle de qu'il n'y a pas nécessairement de chronologie dans le livre de l'Apocalypse, mais on dit souvent que c'est cyclique. Autrement dit, il y a des choses qui reviennent comme un cycle. Ça recommence dans l'autre siècle. Ça recommence dans l'autre siècle. C'est souvent la même chose, mais c'est juste que ça change de siècle, ça change de manie, ça change de manière. Un peu comme quelqu'un, il lit, vous avez déjà suivi l'histoire de l'Église, vous avez premier siècle, deuxième siècle, troisième siècle, qu'est-ce qui se passait? L'emphase des attaques du malin changeait. Premier siècle, ça a été souvent Jésus-Christ. Deuxième, après ça, c'est changé, le Saint-Esprit. Autrement dit, le malin a toujours continué d'attaquer, mais a toujours changé de tactique de siècle en siècle. Quand on est arrivé à la Réforme, c'est à quoi la grande, si on pourrait dire, c'est à quoi la grande doctrine qui était remise en question par Luther? Le salut! Eux autres, ils disaient que c'était par les œuvres, puis en lisant Romains, lui, il s'est rendu compte, ben non, regarde, ça dit par la foi. Et ça a fait On n'imagine pas hein, la puissance de la parole. C'était un moine, là. Il se fouettait. Là. Lui, il voulait être proche de Dieu. Là. Et, plus zélé que Luther, là, c'était pas possible là, à son époque. C'était un zélé, pas à peu près. Là. Il voulait être proche de Dieu. Il voulait obéir à Dieu. Mais il se rendait compte que le péché le dominait, puis il n'avait rien à faire, il n'avait jamais la paix du cœur. Il n'avait jamais, jamais, jamais la paix du cœur. Jusqu'à ce qu'il lise Romains, parce qu'il était un moine étudiant, puis il avait tout son temps pour étudier juste les Écritures. Quand il est arrivé sur Romains, le juste vivra par la foi, ça lui a frappé dans le dash, comme on dit. Mais l'impact que cette chose-là a eu sur l'humanité entière, voyez-vous, la parole est puissante. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu la réforme avec tout ce qui a suivi en Europe et en Amérique du Nord et partout dans le monde? Là, c'est extraordinaire. Alors, il faut prendre conscience de ça. Alors, un des sept anges qui avait donné les coupes de la colère de Dieu, il est venu puis a parlé à, il lui a dit d'une déclaration qui était très importante. « Viens, je te montrerai le châtiment. » Dans ma version, dans la version que j'utilise, l'Osterwald, ça dit « châtiment ». Il y a d'autres versions qui disent « le jugement ». Mais c'est la même chose. Alors, des anges puissants, on avait vu dans les chapitres précédents, 15 et 16, ils s'étaient donnés, ils s'étaient vus confier la mission de déverser les sept coupes de la colère de Dieu sur l'humanité pécheresse. Alors, on avait vu que la révélation de la nature, de l'ordre et des endroits et des emphases des différentes coupes est suivie par une invitation à l'apôtre Jean de lui montrer le châtiment de la grande prostituée. Si on reprendrait les sept coupes, c'était versé d'abord les quatre premières, vous souvenez-vous, c'était où? La nature, la cinquième, après ça on a parlé sixième, septième, là on arrivait sur le siège. Dieu envoyait les ténèbres sur le siège des ténèbres, sur le quartier général des ténèbres, si tu veux. Et là, à partir du chapitre 17, autrement dit, ce qui a été donné comme jugement dans les chapitres précédents, là, il vient t'expliquer le déroulement de ce qui a été dit précédemment. Très important qu'on le saisisse parce que c'est une amplification. Autrement dit, il prend les chapitres précédents et il vient démontrer comment Dieu va faire ça dans le concret avec Babylone la Grande, avec la grande religion mondiale, avec le gouvernement mondial, comment le Seigneur va agir dans tout ça. Et, chose importante aussi, on se rend compte que c'est une déclaration par invitation. Parce qu'il nous dit bien, l'ange vint et me parla, parla à qui? À Jean. En disant, viens, il l'invite. Viens, je vais te le montrer comment Dieu va juger, qui avait été dit avant, là, dans les chapitres précédents, de la colère de Dieu. Et c'est vraiment une déclaration de jugement. Comme moi, je viens de vous dire dans ma version à moi, c'est marqué les sept coupes, le châtiment. Mais châtiment et jugement, dans le fond, c'est un. Il faudrait avoir les mots grecs pourquoi que ça a été traduit châtiment, l'autre l'a traduit jugement, mais ça n'a pas d'importance. Alors, l'heure du jugement est arrivée. Notre grand Dieu a différentes caractéristiques, on l'a mentionné ce matin. Dieu voit tout ce qui se passe dans tous les pays, dans toutes les églises, dans le monde entier, dans l'univers créé. Omniscient, c'est gros, là. Omnipotent, ça veut dire que le Seigneur est tout-puissant. On n'a pas d'idée. Quand on dit... Moi, je me souviens de la première fois que j'ai eu l'idée, quand on parlait des Écritures, on disait que Dieu a la puissance nécessaire pour prendre l'univers, mais pour réaliser la portée d'une affaire pareille, il faut comprendre comment grand est l'univers. On a parlé la semaine passée du nombre des étoiles, puis ça. Le Seigneur, il dit qu'il prend ça comme un manteau, il le roule. Moi, là, si j'ai un manteau chez nous, je le mets sur le lit, je le roule, je donne-tu toute ma puissance? Même pas. Imaginez-vous la puissance, le poids de tout ça, probablement que les grands savants pourraient le donner. Le Seigneur dit qu'il est capable de prendre ça, puis de rouler ça comme un manteau. Je ne tiens une idée que quel point le Seigneur est puissant. C'est ce grand Dieu-là dont on parle. Il est omniprésent. Il n'y a pas un endroit, peu importe la ville où on vivait à l'époque, que ce soit à Sardes, que ce soit à Philadelphie, toutes les villes qu'on a mentionnées au début, là, dans les trois premiers chapitres, le Seigneur savait ce qui se passait à la perfection dans la tête des dirigeants et dans la tête de tous les croyants de cette époque-là. À la perfection. Et quand il décide que c'est assez, il y a un aspect de Dieu qui est très intéressant. L'omniscience, l'omnipotence, l'omniprésence, la grâce, l'amour, la miséricorde. Mais quand on commence à parler de justice, là, ça nous craint. Parce que là, si on réalise qui il est, puis quand il dit « c'est fini », voici maintenant le jour du jugement est arrivé. Et là, on va dire comme ce gars, il y en a qui vont s'enligner tantôt. Alors, c'est important de voir aussi qu'il est en train de lui donner une identité, une déclaration d'identité. La grande prostituée n'est pas la véritable Église de Dieu. Quand on parle de la grande prostituée, c'est quelque chose de religieux. Mais qui n'est pas le Dieu, qui n'est pas le religieux biblique. Il y a tous ceux qui se sont éloignés des vérités fondamentales de la Bible, et il y a toutes les fausses religions et les fausses philosophies qui se greffent à ça. Et on est rendu là, là, mes amis. Là. Parce que si vous regardez actuellement ce que le pape a donné publiquement, la religion, où est-ce qu'elle s'en va, là? L'unité de toutes les religions sans... Lui, il dit que c'est, tout est correct, ça, tout mène à Dieu. À quelque part, ou tu crois le pape, ou tu crois ce que la Bible dit. Le salut, la Bible dit qu'il n'y a de salut en aucun autre qu'en Jésus-Christ. Si tu dis que c'est en Bouddha, là, c'est tes affaires, tu peux le dire si tu veux. Mais moi, je sais que c'est faux. Et là, on est rendu là. La religion mondiale est presque établie mondialement et de plus en plus, je pense que ça va s'en aller, que tous ceux qui vont contester la vérité de cette religion-là qui supposément va emmener la paix, moi je prétends que dans les prochaines années, là, ça va chauffer. Parce qu'ils n'accepteront pas d'opposition. Alors, c'est intéressant de regarder l'histoire, de se rendre compte que la véritable Église de Dieu n'est... La grande prostituée, c'est pas la véritable Église de Dieu. C'est la fausse Église apostate. N'est pas la véritable épouse du Christ. Alors, quand on dit la prostituée, c'est quelqu'un qui a encore du vocabulaire, qui a encore, si tu veux, certaines idées concernant la foi, concernant la Bible, concernant les vérités bibliques, concernant le salut, qui a encore certaines idées, mais qui l'a corrompu, qui l'a abandonné. L'apostasie, ça veut dire abandonner la foi. Il y a des choses que les Écritures nous enseignent sur Christ, sur le salut, sur le péché, et à partir du moment que tu dis que ces choses-là ne sont pas vraies, tu es un apostat. Tu as dérapé, tu as lâché la vérité. Est-ce que tu étais sauvé non. Moi, j'ai toujours répondu non à ça depuis des années, que je dis que ceux qui abandonnent, c'est parce que tout simplement, ils n'étaient pas sauvés. L'idée d'utiliser l'image de la prostituée, ça vient de loin, et on pourrait prendre encore une fois une étude, on pourrait partir du début de la Genèse, aller jusqu'à la fin de l'Apocalypse. Toute l'idée de la prostitution qui est dans les Écritures, c'est souvent de la prostitution physique, comme on sait ce que c'est, tu sais, les mots qu'on utilise pour les prostituées. Mais souvent, dans les Écritures, la prostitution est utilisée dans un sens moral, dans un sens religieux. C'est tout ce qui s'éloigne de la vérité, c'est de la prostitution. C'est de l'idolâtrie, ça mène vers l'idolâtrie, ça mène à toutes les formes d'impureté que les hommes commettent sur la terre. On va lire Osée, chapitre 2, versets 16 à 19. « Et il arriva en ce jour-là, dit l'Éternel, que tu m'appelleras mon mari. » C'est intéressant, il parle d'Israël, puis Dieu dit qu'il va appeler Israël. Israël va l'appeler mon mari. Alors, il est en train d'utiliser des expressions de mariage pour parler de la relation de Dieu avec son peuple. Il dit, tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon Baal, qui veut dire maître. Et j'ôterai de sa bouche les noms des Baals, et on ne fera plus mention de leur nom. En ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, avec les oiseaux des cieux, avec les reptiles de la terre. Je briserai, j'ôterai du pays l'arc, l'épée et la guerre, et je les ferai reposer en sûreté. Et je t'épouserai pour toujours. Dieu parle d'épouser son peuple. Là, on commence à comprendre l'image de la femme. Je t'épouserai pour toujours. Je t'épouserai par une alliance de justice et de droit, de bonté et de compassion. Là, on dit, OK, c'est dans l'Ancien Testament. On pourra prendre une multitude d'autres exemples. On va aller dans le Nouveau maintenant, parler de la même idée. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 2. « Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai unis à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge chaste. » Il parle de l'Église, puis il parle de nous autres comme si on serait une vierge, pour le marier à Christ. Il dit, « Vous êtes la femme de Christ. » Alors, il y a des idées spirituelles qui sont reliées à ça. La femme de Christ, c'est pas une prostituée. Elle ne vit pas dans le mal, elle ne vit pas dans l'impureté, elle ne vit pas dans l'idolâtrie. Sinon, c'est faux. Donc, la fausse Église, qu'on pourrait dire l'Église apostate, elle agit comme une prostituée. Elle se donne à tous les dieux des minuscules et se vautre dans de grossières immoralités et de grossières idolâtries. Elle vit dans le désordre, la dissipation, les abus de toutes sortes et des relations sexuelles en dehors des liens sacrés du mariage. Elle cherche à séduire et à éloigner ses amants du Dieu véritable. Elle est à la fois séductrice et corruptrice. Dans le Proverbe, chapitre 7, on a vraiment une image où Dieu nous parle de comment agit une prostituée pour attirer des gens à sa suite. Là, c'était vraiment une prostituée dans le monde physique. Elle était sur le coin d'une rue à chercher à emmener du monde. Mais dans le fond, je pense que l'image, on peut très bien l'utiliser dans le monde spirituel aussi. Alors, ça dit dans Proverbe 7, versets 18 à 23. Alors, c'est la prostituée qui parle au jeune homme qu'elle vient de rencontrer. Puis elle lui dit, « Viens, enivrons-nous de délices jusqu'au matin. Réjouissons-nous dans les plaisirs, car mon mari n'est pas à la maison. Il est allé bien loin en voyage. Il a pris avec lui un sac d'argent. Il ne retournera à sa maison qu'à la nouvelle lune. » Elle l'entraîna à force de paroles et le fit tomber par la flatterie de ses lèvres. Il s'en alla aussitôt, après elle, comme un bœuf s'en va à la boucherie, et comme un fou qu'on lie pour être châtié, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme un oiseau qui se précipite vers le lacet, ne sachant pas qu'il est tendu contre sa vie. » Dans le fond, si on prendrait ce passage-là, puis on comparerait avec ce que la religion chrétienne fausse, apostate, fait pour essayer d'entraîner le monde à sa suite, c'est exactement la même chose. Dans le but de les emmener vers la mort éternelle. Et ça dit aussi une déclaration de son alliance et de sa collaboration spirituelle. On va arriver avec l'expression « Que veut dire l'expression « Elle est assise sur les grandes eaux » ?» Une prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Là, c'est clair que c'est du symbolisme. Alors, le verset « asseoir », quand on parle de s'asseoir dans les Écritures, ça fait très souvent référence à la souveraineté et à sa domination sur les grandes eaux. Maintenant, on va aller voir un petit peu plus loin, dans le verset 15 du même chapitre 17, là, la Bible elle-même nous donne l'explication. Ça, il n'y a pas mieux que ça, là. Là, tu n'interprètes pas, là. C'est Dieu qui te le dit que ça veut dire. Verset 15, Apocalypse 17, 15. « Puis, il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, sont des peuples et une multitude et des nations et des langues. » Autrement dit, la fausse religion, elle contrôle tous ces gens-là, les peuples, les multitudes, les nations, les langues. Et les 10 cornes que tu as vues à la bête haïront la prostituée, la désoleront et la dépouilleront et mangeront ses chairs et la consumeront dans le feu. Car Dieu leur a mis au cœur d'exécuter son dessein et d'avoir un même dessein et de donner le royaume à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Or, la femme que tu as vue, quand là on parlait de la femme et de la cité. Or, la femme que tu as vue, c'est la grande cité qui règne sur les rois de la terre. Et à l'époque que ça a été écrit, quelle était la grande cité qui régnait sur les rois de la terre?
Rome.
C'était Rome. La Bible bâtie sur les autres collines. Alors, la prostituée, je pense que c'est assez facile de déduire que c'est la grande religion mondiale. Puis là, des fois, on se dit, voilà, mais là, c'est loin, ça, là. Pas nous autres, c'est pas notre génération qui va connaître ça. Là. Mais lisez les journaux, allez sur Internet, informez-vous de ce que le pape François dit actuellement concernant la religion mondiale. On est direct dedans. Et ce que ça nous montre, c'est que la prostituée est assise sur la bête. Quand on est assis sur quelque chose, c'est qu'on domine la chose qui est sous nous. Oui. Mais si, c'est qui, si on a dit que la prostituée, c'était la religion, donc la religion contrôle quoi? La bête. On a vu que la bête, c'était la politique. Donc, la religion contrôle la politique. Très important. Il y a des principes qui sont enseignés. Donc, elle nous dit qu'elle domine la bête, le gouvernement mondial. Donc, la religion mondiale, qui est représentée par la prostituée, contrôle le gouvernement mondial. Et lui aussi est en train de se monter droit sous nos yeux. Là. Quelqu'un qui observe un petit peu les relations internationales de nos jours, là, il voit ça, c'est gros. Là. C'est gros comme ça. Si tu ne le vois pas, c'est parce que tu ne veux pas le voir. C'est gros, gros, gros. Ils veulent enlever les nations. Pourquoi que c'est pas correct de vouloir avoir un gouvernement mondial? Parce que c'est Dieu lui-même qui a institué les nations. On ne peut pas dire, oh ben là, ça marchera bien mieux, on aura un gouvernement mondial, puis on pourra tout régler les problèmes de la terre. C'est Dieu qui a voulu ça lui-même. Alors, chaque fois que tu veux défaire ce que Dieu a fait, tu fais une méchante erreur. Tout à l'heure, on parlait de la moralité qui sont en train de rentrer dans la tête des enfants. Dieu veut pas ça. Tout ce qui se passe actuellement, tant au niveau religieux qu'au niveau politique, a pour but de détourner les hommes de Dieu. Ça sera pas beau tantôt. Alors, si la grande prostituée et la religion mondiale dominent la bête qui est le gouvernement mondial, car elle est assise dessus, et en même temps, elle trouve dans la bête son support, et elle fait avec elle fait corps avec elle. Tu sais, si la femme est assise sur la bête, elle fait corps avec. Donc, ça implique l'idée de l'alliance. Le politique et le religieux s'entendent pour lutter contre Christ et contre son Église. Elle collabore avec les rois de la terre. Elle est étroitement associée avec la bête. Satan attaque les saints de deux façons. Par la politique, la bête. Si vous, disons, vous avez déjà étudié la réforme, par exemple, qu'est-ce qui se passait dans le temps de la réforme? Est-ce que c'était l'Église qui s'occupait de punir tous ceux qui contestaient le catholicisme? Non. Mais l'Église était tellement puissante qu'elle disait, on va se servir de notre bras séculier. Un bras séculier, c'est les États, les pays. Autrement dit, c'était les évêques, les cardinaux, le pape qui disait au roi, qui était le système politique, de punir ceux qui... Et il y a eu du sang qui a coulé, là. La réforme, c'est, il y a du sang, des fleuves de sang. Donc, le religieux a toujours utilisé le politique pour faire ses jobs de bras, on pourrait dire. Donc, la bête politique attaque avec puissance au moyen de la persécution. Elle cherche à détruire le témoignage de l'Église et son action. Elle cherche à détruire la pureté des saints et à les éloigner du Seigneur. Voyez-vous la combinaison des deux? La politique qui est le bras des jobs sales de la religion qui domine. C'est imagé, l'Apocalypse, c'est imagé, mais à partir du moment qu'on comprend les symboles puis qu'on met ça en relation avec ce qui se passe, là, ça devient une clarté. Là. C'est limpide comme de l'eau de roche, comme on le dit. Versets 3 et 4. Le verset 3 et 4. Le châtiment qui est dévoilé. Et ça dit, « Et il me transporta en esprit dans un désert. » C'est qui, là? Il? L'ange? Et il me transporta en esprit dans un désert. Donc, est-ce que c'était dans un vrai désert? Non, ça dit en esprit. L'ange a permis qu'il voit des choses en esprit de ce qui se déroulait, de ce qui va se dérouler dans les siècles suivants. Et probablement qu'il a vu jusqu'à la fin. Dieu a permis que Jean voit ce qui va se dérouler jusqu'à de nos jours. Imaginez-vous, ça devait être quelque chose de terrible à voir. Si Dieu a permis qu'il voit ce qui se passait dans les siècles, comment la religion collaborait avec la politique dans le but des éloignés du Seigneur, ça devait être quelque chose. Alors, le dévoilement par le Saint-Esprit dans un désert. Il me transporta en esprit dans un désert. On le sait, un désert, c'est un lieu où il n'y a pas d'eau, un lieu de sécheresse, un lieu de désolation, un lieu de ruine. Si on le met en relation avec plusieurs passages où qu'on parle du désert. Ça aussi, quand je vous disais tantôt qu'on pourra faire des études de mots, on prend le mot désert. La Bible est son propre interprète. Mais si tu prends le mot désert, tu cherches un dictionnaire humain, ça t'aura pas la même définition que si tu prends désert puis tu suis tout le long dans les Écritures. Alors, ça dit dans le psaume 103, versets 1 et 2, psaume de David lorsqu'il était au désert de Juda. « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche au point du jour. Mon âme a soif de toi. Ma chair te souhaite dans cette terre aride, desséchée, sans eau. » Un désert, il n'y a pas d'eau. L'image que Dieu utilise pour parler de la régénération, c'est l'eau. Il parle de l'eau. Quand il n'y a pas d'eau, c'est sec, c'est le désert. Pas pour rien qu'il l'amène à cet endroit-là. Et après ça, il veut lui montrer l'aspect, en tout cas c'est le même que je le comprends, l'aspect de la collaboration du religieux avec le politique. Et je vis une femme assise sur une bête de couleur écarlate, pleine de noms de blasphème, et ayant sept têtes et 10 cornes. On pourra rentrer dans le désert, encore là, les têtes, les cornes, les monstres. Les Écritures sont riches, puis si on ne le fait pas, c'est pour ça qu'on ne comprend pas tout si simple que ça. Dans la femme, c'est la fausse religion et la religion chrétienne apostate. Il faut faire attention ici, là. On ne dit pas la religion chrétienne, on mentionne les deux ensemble. Chrétienne apostate. Quelqu'un peut continuer à parler et à utiliser le nom de Christ dans ses discours, dans ses écrits, dans ses politiques, dans tout ce que tu voudras, mais dans le fond, il s'est éloigné d'une façon catégorique de ce que la Bible dit. Quand ça dit « pleine de noms de blasphème », c'est autrement dit, si tu prendrais l'ensemble des enseignements, puis tu les comparerais avec les Écritures, c'est des blasphèmes! Parce que dans l'ancien temps, disons dans le temps des réformateurs, où on disait que le salut se gagne par les œuvres. Qu'est-ce que c'est? C'est pas un blasphème, ça. Puis si tu prends l'ensemble de toutes ces doctrines, la messe, ces affaires-là, elle est remplie de noms de blasphème ayant cette cornise. Donc, dans 1 Timothée, chapitre 4, versets 1 et 2, on parlait tout à l'heure des derniers temps. 1 Timothée, chapitre 4, verset 1. « L'Esprit, donc le Saint-Esprit, dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns se détourneront de la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Quand tu fais dire à la Bible des mensonges par rapport à une multitude de doctrines, c'est des doctrines de démons. Puis en plus, ça nous dit « par l'hypocrisie de faux docteurs dont la conscience est cautérisée. » Donc, autrement dit, un faux docteur, c'est un faux enseignant. Conscience cautérisée. Cautérisée, ça veut dire « si je m'en vais là, moi, je ne suis pas un bûcheron. » Puis si demain matin, on me mettrait à bûcher dans le bois, là, j'ai des mines mémées. Dans le temps de dire « je saignerais des mains... » Ça serait terrible. Mais si je continuerais, cautérisé, ça veut dire qu'il se forme de la corne. La corne t'enlève ta sensibilité. La conscience cautérisée, ça veut dire que c'est une conscience qui n'a plus de sensibilité. Les faux docteurs, leur conscience est rendue comme quelqu'un qui a de la corne, il ne sent même plus les mains. Tu pourrais y piquer dedans, puis ça lui fait mal. On dirait qu'il y a de la corne dans les mains. C'est ça que c'est en train de dire. Les faux docteurs, leur conscience est cautérisée. C'est comme si il n'y a plus de sensibilité. 1 Jean, chapitre 2, versets 18 et 19, je nous parlais un peu. Tout à l'heure, quand je vous disais que j'avais la conviction que ceux qui s'éloignent de la véritable religion chrétienne ne sont pas des véritables chrétiens, mais vous avez ici un verset qui le dit. Petits enfants, c'est Jean qui parle. C'est le même apôtre que celui qui écrit l'Apocalypse. Il dit, petits enfants, c'est ici la dernière heure, comme vous avez entendu dire, que l'Antichrist vient. Il y a dès maintenant plusieurs Antichrists par où nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis d'entre nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais c'est afin qu'il fût manifesté que tous ne sont pas des nôtres. Pas à cause que tu as une grande religion mondiale qui prétend avoir 1 milliard de membres, que ça veut dire que tous ces gens-là sont des véritables chrétiens. Pourtant, ils utilisent le mot « chrétien ». On est des chrétiens, puis ce que tu voudras. Puis, c'est fort probablement eux qui ont été les initiateurs de vouloir tout ramener le protestantisme et tout ça sous la jupe de Rome. Et de plus en plus, vouloir effacer tout ce qui distinguait les véritables croyants des faux croyants. L'apostasie, c'est ça. Et ça nous dit dans le verset 4 comment elle va procéder. Cette prostituée-là. Je pense qu'on va arrêter là aujourd'hui parce que je n'aurai pas le temps de le faire. On va arrêter là aujourd'hui et on terminera la semaine prochaine.